Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons beaucoup parler de la Syrie aujourd'hui, des frappes américaines après une attaque chimique contre la population la semaine dernière. Dans le débat, dans une demi-heure, vous nous direz ce que vous pensez de ces bombardements. Fallait-il attendre? Quelles conséquences? Nous attendons vos appels et vos messages. Et comme nous avons reçu beaucoup, beaucoup de questions sur le sujet, nous allons en parler dès maintenant avec Davy. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
Vous nous appelez de Brazzaville au Congo, on vous écoute.
Oui, je vous appelle de Brazzaville. Les États-Unis ont mené vendredi une attaque sur la base syrienne de Sirte. Quel était l'intérêt stratégique de viser cette base?
Alors pour vous répondre, Vincent Desportes, général de division de l'armée de terre française et ancien directeur de l'école de guerre, bonjour.
Oui, bonjour.
Pourquoi les frappes américaines se sont-elles concentrées à cet endroit précis, sur cette base aérienne d'Al-Shariat?
Alors je crois qu'il faut comprendre que cette frappe n'a pas un objectif opérationnel. D'ailleurs, la base n'a pas été détruite. On le sait, les avions ont redécollé le lendemain. Et si les Américains avaient voulu détruire la piste, ils l'auraient fait. Ils n'ont pas voulu le faire. Donc il faut bien comprendre que nous ne sommes pas du tout dans une opération qui ressemble à celle qui aurait eu lieu à la fin du mois d'août 2013 et qui n'a pas eu lieu, comme chacun sait.
À la fin du mois d'août 2013, à l'époque où il y avait eu une attaque chimique dans la banlieue de Damas, et Barack Obama avait toujours déclaré qu'une attaque chimique, ce serait une ligne rouge à ne pas franchir. Vous faites référence à ça, j'imagine.
Exactement. Et alors, cette opération tripartite, franco, avec les Français, les Britanniques et les Américains, avait un objectif opérationnel qui visait à détruire une partie des capacités militaires de M. Assad. Là, c'est tout à fait différent. Il s'agit d'une frappe profondément politique, une frappe de semonce vis-à-vis de M. Assad, en disant, cette fois-ci, maintenant, nous sommes capables de vous frapper et nous vous frapperons si vous continuez. Mais c'est aussi une frappe politique et stratégique vis-à-vis de M. Poutine. Poutine qui fait actuellement ce qu'il veut, où il veut. Après la reculade du mois d'août 2013, il a pris la Crimée, il est allé dans le Donbass, et il a lui-même mené de très multiples opérations unilatérales en Syrie. Aujourd'hui, on lui dit, l'Amérique est de retour. Donc c'est un message très fort vis-à-vis de M. Poutine, également vis-à-vis de l'Iran, qui ne craint plus les États-Unis aujourd'hui à cause des reculades du précédent président, et vis-à-vis de la Corée du Nord.
Maintenant, un avertissement donc pour le régime syrien, pour la Russie et pour l'Iran, qui soutient également Bachar al-Assad. David, vous aviez une autre question?
Oui, Anne. Beaucoup de pays ont condamné cette attaque qui a eu lieu en Syrie et à Damas. Sur quelle preuve s'appuie-t-il?
Vincent Desportes, c'est vrai que c'est une question qu'on entend beaucoup depuis quelques jours. Est-ce qu'on est sûr que le régime syrien est bien derrière cette attaque chimique?
Écoutez, en tout cas, moi, j'en suis pas sûr parce que c'est pas mon métier, mais il est extrêmement probable, à 99 chances sur 100, que ce soit le cas. Et de toute façon, ce qu'on sait, c'est qu'il en a fait beaucoup d'autres. Donc, encore une fois, le point, c'est de dire à M. Assad, vous ne pouvez plus détruire votre peuple comme vous l'avez fait à Homs, comme vous l'avez fait à Alep, et là, comme vous l'avez fait. Aujourd'hui, ce dont le monde a besoin, c'est de mettre un terme à ces débordements de violence. Et qu'on le regrette ou pas, à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui montrent qu'ils sont forts et qu'ils s'y opposeront. C'est ce qu'a fait M. Trump, et je crois que pour la paix du monde, il a eu raison de le faire. Maintenant, reste à faire que cette émotion-réaction se transforme en une véritable politique étrangère consolidée, ce qui n'est pas encore le cas. Il faut que ce soit le prémisse d'une nouvelle position stratégique américaine.
Et l'attaque chimique, c'était un prétexte pour reprendre la main, en quelque sorte?
Ça n'était pas un prétexte. Oui, c'est un prétexte.
Enfin, un prétexte, elle existe, évidemment, hein, mais je veux dire
Elle existe. Elle est très, très, très probablement le cas. Pas forcément de M. Assad, là aussi, il faut le savoir, mais simplement des militaires de M. Assad, de l'armée syrienne. Mais en tout cas, il fallait le faire, il fallait montrer que trop, c'est trop. M. Poutine fait jusqu'à présent ce qu'il fait en Syrie, maintenant il comprend qu'il a en face de lui quelqu'un qui est capable d'agir, et je crois que c'est bien, encore une fois, pour la paix du monde, c'est bien pour les pays baltes, par exemple. C'est bien pour tout ce que M. Poutine pourrait avoir la tentation de faire en Europe. Il faut dire non, maintenant, quand vous ferez quelque chose, on vous répondra.
Merci Vincent Desportes d'avoir répondu à Davy. On va continuer à parler de cette attaque chimique en Syrie qui a fait au moins 87 morts, je vous le rappelle. Et puis de la réaction immédiate donc des États-Unis qui ont bombardé une base syrienne moins de 48 heures plus tard. Bonjour Bemba.
Oui, bonjour Anne. Bonjour à votre invité.
Bemba, quelle est votre question ?
Voilà, suite à l'attaque chimique qu'a été victime la Syrie, les États-Unis ont décidé de mener une frappe sur une base du régime syrien. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que cela ne montre pas un réengagement des États-Unis dans le conflit syrien ? Et ma deuxième question, plusieurs États ont approuvé ces frappes, mais la Russie condamne. Est-ce que cela ne va pas mener une escalade de tensions entre les États-Unis et la Russie ?
Alors, on va essayer d'y voir plus clair avec Masri Feki. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en géopolitique à l'université Paris 8. Les États-Unis ont-ils voulu marquer le coup ou bien y a-t-il une réelle volonté de reprendre le dossier en main ?
Alors non, je pense que tout indique que cette frappe n'est en réalité qu'un avertissement adressé non pas au régime de Damas, mais surtout à la Russie qui a le contrôle de la situation en Syrie aujourd'hui et aussi à l'Iran qui est l'un des piliers du régime syrien. Alors on sait très bien que l'opinion publique américaine aujourd'hui ne suivrait pas Donald Trump dans un engrenage qui conduirait l'armée américaine à s'investir davantage sur le théâtre syrien. Je dis bien davantage parce que les Américains sont déjà présents par le biais de la coalition internationale et qu'ils mènent régulièrement des frappes contre l'État islamique, que ce soit en Syrie ou en Irak. C'est donc un signal qui vise particulièrement les Russes, les tuteurs politiques et les alliés du régime de Damas. Mais je voudrais aussi souligner deux points. Le premier, c'est que cela s'inscrit également dans la continuité, puisqu'on se rappelle que l'ancien président Obama avait très bien indiqué que l'usage d'armes non conventionnelles, et en particulier d'armes chimiques, serait considéré comme la violation d'une ligne rouge et qui conduirait les Américains éventuellement à intervenir et que cela pourrait s'effectuer dans une semaine, dans un mois ou dans plusieurs années.
Oui, donc, parce que quand l'occasion s'était présentée, il y avait eu, on en parlait il y a quelques minutes, une attaque chimique en 2013 qui avait fait 1400 morts quand même et à cette période-là, le président Obama n'était pas intervenu.
Alors je vais vous dire, donc il y a plusieurs choses. Donc plus premièrement, le président Obama n'est pas intervenu, mais il avait dit que les Américains pourrait intervenir dans l'avenir. Mais entre-temps, un accord a été signé entre les Américains et les Russes, en vertu duquel, donc après l'avertissement du président Obama, en vertu duquel toute arme chimique aurait dû être démantelée par le régime syrien avec la supervision des Russes. Alors, non seulement ça n'a pas été fait, puisqu'on voit ce qui s'est passé, mais en plus, il ne faut pas oublier, et c'est quand même important de le souligner, que pratiquement chaque semaine, depuis le début de l'année 2017, le régime syrien procède à des bombardements au chlore, alors qui n'est pas considéré officiellement comme une arme chimique au regard des traités, mais qui n'en relève pas moins d'une frappe chimique. Et donc, on voit bien que l'accord qui a été signé formellement entre les Américains et les Russes n'a pas été respecté.
Alors vous parlez justement d'un accord entre les États-Unis et la Russie. Cela rejoint l'autre question de notre auditeur de Cotonou, Bemba. Quelles peuvent être les conséquences de cette frappe américaine pour les relations entre les deux pays, entre Washington et la Russie qui apporte jusqu'à présent un soutien sans faille au régime de Bachar al-Assad ?
Alors je pense qu'à ce stade, je ne pense pas que l'on puisse parler d'une dégradation des relations entre les Américains et les Russes. Les Russes sont tout à fait conscients de la réalité sur le terrain. Ils savent que le régime d'Assad a franchi une ligne rouge. Et d'ailleurs, il y a des journaux en Russie qui ont osé d'ailleurs de parler de ce franchissement de la ligne rouge avec un air assez critique. Et puis d'ailleurs, on n'a pas vu beaucoup de pays qui ont critiqué l'intervention américaine.
Ça voudrait dire, par exemple, que ça met la Russie dans une position un peu compliquée de soutenir le régime et en même temps d'être de vouloir condamner ce type d'attaque.
Non, parce que là, en fait, en réalité, ce qui s'est passé, d'ailleurs, ça rejoint une question qui a été posée précédemment. Est-ce qu'on est sûr que le régime d'Assad est responsable de ce qui s'est passé ou non ? Alors la réponse, elle est claire et nette. Oui, le régime est responsable. Pourquoi il est responsable ? Parce qu'il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que le régime, c'est que un avion syrien a lâché un missile contenant donc le gaz neurotoxique, ce qui viole de façon claire et nette toutes les conventions internationales et l'accord conclu entre Moscou et Washington en 2013, par lequel la Russie s'est formellement engagée à vider toutes les armes chimiques et bactériologiques de Syrie. La deuxième hypothèse, c'est que l'avion a frappé un dépôt contenant ce type de gaz. Mais là aussi, il y a un problème, puisque il est peu probable que l'armée syrienne ignorait l'existence de ce dépôt, et par conséquent, cela également met en cause aussi bien la Syrie, mais surtout les Russes, qui donc n'ont pas mené leur travail jusqu'au bout.
Merci Masri Feki, merci d'avoir été avec nous. Bemba, on espère que la situation est un peu plus claire maintenant. Bonne journée à Cotonou. Nous accueillons à présent Abdul Karim, bonjour.
Bonjour Anne.
Vous nous appelez d'Abidjan et vous avez une question concernant l'Afrique du Sud.
Bien sûr. Le secrétaire général de l'ANC, Mantashe, qui condamnait la semaine dernière le remaniement effectué par le président Jacob, lors d'une conférence le mercredi 5 avril, vient d'apporter son soutien au chef de l'État sud-africain, alors que le puissant syndicat allié de l'ANC venait à le lâcher ouvertement. Mes questions, pourquoi ce revirement? Et que risquent les députés frondeurs au sein de l'ANC?
Alexandra Branjon va vous répondre, correspondante à Johannesburg. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
C'est vrai que ces derniers temps, le président Jacob Zuma a été malmené, y compris par sa majorité. Et pourtant, son parti a finalement décidé de ne pas le lâcher. Pourquoi?
Alors, en effet, comme le disait notre auditeur, le secrétaire général de l'ANC, Guédé Mantashe, a fait marche arrière. Pour rappel, dès le lendemain de l'annonce de ce remaniement contesté, Mantashe a rejeté cette décision, affirmant que l'ANC n'avait pas été consulté. Il est allé jusqu'à affirmer que cette liste, la liste des ministres qui allaient faire leur entrée au gouvernement, eh bien cette liste provenait d'ailleurs. Sous-entendu qu'elle a été concoctée par les Gupta, une riche famille d'hommes d'affaires, amis du président et accusée d'ingérence dans les affaires du gouvernement. Tout ça a provoqué beaucoup d'indignation. Le vice-président du parti et du pays, Cyril Ramaphosa, a également rejeté cette liste, ainsi que le trésorier. Et coup de théâtre, la semaine dernière, après 2 jours de réunion interne à l'ANC, le secrétaire général, lors d'une conférence de presse, revient sur ses pas, affirmant que la relation entre le président et son ministre s'était dégradée, donc son ministre des Finances, qui a été limogé, et donc qu'ils ne pouvaient plus travailler ensemble, et allant jusqu'à dire que les mécontents, dont lui-même, n'auraient pas dû critiquer publiquement le chef de l'État. Alors que s'est-il passé? Eh bien, la direction de l'ANC, qui est composée de 6 hauts cadres du parti, est divisée sur remaniement. 3 sont opposés, 3 pour, et donc il y a une réunion un peu plus large qui comprend une vingtaine de personnes, des ministres, des représentants de la Ligue des Femmes, de la Ligue des Jeunes, de l'ANC, et là, la balance a penché en faveur du président Jacob Zuma. Ce comité a décidé de soutenir Jacob Zuma, et donc le secrétaire général du parti n'avait d'autre choix que de se plier, puisqu'il parle au nom du parti. Cela montre plusieurs choses. 1, que l'ANC continue d'être très divisée. 2, que la faction pro-Zuma est dominante, en tout cas parmi les hauts cadres du parti. Et 3, que le chef de l'État contrôle fermement son parti.
Alors il reste quand même quelques frondeurs au sein du parti au pouvoir. Vendredi dernier, certains d'entre eux s'étaient même joints aux dizaines de milliers de personnes qui manifestaient contre Jacob Zuma. Est-ce que ces frondeurs risquent quelque chose, Alexandra Branjon?
Alors oui, cette crise a permis une chose, c'est de définir très clairement qui est dans quel clan, qui sont les pro-Zuma et qui sont ceux qui lui sont opposés. Alors, on sait déjà que le chef de l'État a purgé ses opposants lors de ce remaniement ministériel. Maintenant, la guerre entre les pro et les anti-Zuma au sein du parti, qui dure depuis des mois, va s'exacerber, et ce jusqu'à la fin de l'année, puisqu'en décembre, le parti doit choisir un nouveau président. Et donc, évidemment, Jacob Zuma veut tout faire pour qu'un candidat qui lui est proche lui succède. Une chose importante, c'est que le président doit faire face à une motion de défiance au Parlement qui a été déposée par l'opposition. Et la semaine dernière, on pouvait imaginer que certains députés ANC qui sont mécontents votent pour cette motion de défiance. Sauf que le secrétaire général de l'ANC, là, lors de son revers la semaine dernière, a mis en garde ceux qui seraient tentés de soutenir cette motion de l'opposition. Ce serait vu comme une trahison. Et comme il s'agit d'un vote à main levée, ces députés seraient politiquement morts. On sait qu'en ce moment, il y a énormément de lobbying auprès de ces députés ANC mécontents pour s'assurer qu'ils restent dans le bon chemin et qu'ils ne basculent pas dans le camp de l'opposition. On verra le vote donc quand il aura lieu le 18 avril. Une dernière chose, c'est que pour quelqu'un comme le vice-président du pays, Cyril Ramaphosa, qui est a priori dans le camp des anti-Zuma, si lui vote cette motion de défiance contre le chef de l'État et qu'elle ne passe pas, ben ce sera fini pour lui. Ramaphosa est candidat à la succession du président Zuma, à la tête du parti, et s'il s'oppose frontalement au chef de l'État, il va se faire écraser. Donc très difficile pour ses membres, pour ses députés ANC mécontents, frondeurs, comme on les appelle ici, de faire quoi que ce soit face à cette énorme machine qu'est l'ANC.
Merci Alexandra Branjon, en direct de Johannesburg, pour répondre aux questions d'Abdoul Karim. Merci à tous les deux et très bonne journée. Vous aussi, appelez-nous, écrivez-nous pour participer au débat, notamment nous dire ce que vous pensez des frappes américaines en Syrie. Donnez-nous votre avis sur ce choix du président Trump. Il n'est pas trop tard pour participer. Cette décision de bombarder la Syrie, Donald Trump l'a prise alors qu'il recevait le président chinois la semaine dernière dans sa résidence de Floride. Et Moussa, vous avez une question sur cette visite. Bonjour.
Bonjour Anne.
On vous écoute.
Xi Jinping a été accueilli aux États-Unis la semaine dernière, alors que le président Donald Trump avait annoncé qu'il renforcerait la relation avec la Taïwan. Cela ne va-t-il pas compromettre la relation chino-américaine?
Alors,
et ma deuxième question.
Allez-y, allez-y.
Lors de la visite de Xi Jinping, un terrain d'entente a-t-il été trouvé pour le cadre nord-coréen, sachant que les États-Unis accusent ouvertement la Chine de ne rien faire pour la menace nucléaire du régime nord-coréen?
Alors, on va d'abord répondre à la première. Le statut de Taïwan, qui est très délicat, effectivement, le territoire se gouverne tout seul, mais Pékin considère qu'il fait partie de la Chine unique et refuse de transiger là-dessus. Nous sommes en ligne avec Jean-Philippe Béja, sinologue et directeur de recherche au CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Alors, cette volonté du président américain ne risque-t-elle pas de compliquer les relations avec la Chine? Est-ce que les deux dirigeants en ont parlé déjà de Taïwan?
Oui, bien sûr. En fait, Donald Trump est déjà revenu sur ses affirmations. C'était avant d'avoir pris ses fonctions qu'il avait reçu un coup de téléphone de Tsai Ing-wen, la nouvelle présidente de Taïwan, qui a des relations assez mauvaises avec la Chine. Et à ce moment-là, il avait dit qu'il n'était pas engagé par la promesse de reconnaître une seule Chine. Et puis, en fait, à partir du mois de janvier, il a véritablement reculé. Et au cours d'un coup de téléphone avec Xi Jinping, bien avant le sommet, il avait déjà dit qu'en fait, il reconnaissait la Chine unique et que simplement, bon, il continue à maintenir des relations avec Taïwan selon le Taiwan Relations Act qui a été voté en 1979. Et donc, il n'y a pas eu grand-chose de nouveau. D'ailleurs, les dirigeants taïwanais eux-mêmes s'inquiétaient que Taïwan ne devienne une espèce d'atout dans les mains des États-Unis au cours de leurs négociations avec la Chine, notamment sur la question du commerce.
Mais donc finalement assez peu de changements concernant la politique américaine vis-à-vis de Taïwan. L'autre question de Moussa concernait la Corée du Nord. Ça, c'était l'un des deux principaux sujets évoqués par les dirigeants chinois et américains. Jean-Philippe Béja, on a entendu à plusieurs reprises Donald Trump dire que la Chine ne prenait pas ses responsabilités. Est-ce qu'il a réussi à convaincre le président chinois?
Écoutez, il semble qu'il n'y a pas véritablement de résultats concrets de ce sommet. On a simplement annoncé qu'on avait un cadre de plus grande coopération et qu'il y avait une grande amitié entre Trump et Xi Jinping. Bon, ça ne mange pas de pain. Si vous voulez, le fait même qu'il ait décidé de bombarder la Syrie juste au moment où il était en train de dîner avec Xi Jinping et qu'il lui a annoncé au moment où les frappes avaient lieu, sont apparus aux observateurs comme une espèce de tentative de pression sur la Chine pour lui montrer que les États-Unis n'hésiteraient pas non plus dans le cas de la Corée du Nord. Comme vous savez, ils ont également envoyé leur porte-avions qui fait route maintenant vers la Corée pour montrer qu'ils pourraient intervenir de façon directe. Alors, est-ce que les Chinois vont renforcer leur pression sur la Corée du Nord? En apparence, oui, c'est fort probable. Est-ce que les États-Unis s'en satisferont? Je crois que bombarder Pyongyang, c'est pas du tout la même chose que de bombarder la Syrie, car Pyongyang, dans ces conditions, pourrait très bien exercer des représailles sur Séoul, qui, rappelons-le, n'est qu'à 60 km de la frontière de la Corée du Nord.
Merci Jean-Philippe Béja d'avoir répondu aux questions de Moussa. Restez avec nous dans 10 minutes. Nous lançons le débat sur les frappes américaines en Syrie, justement. Vous nous donnerez notre avis sur cette politique de Trump.
Bonjour, c'est Maman.
Michel Gaud.